Dans les oreilles de l'Église protestante unie de France, les podcasts. Notre sélection de podcasts cette semaine est marquée évidemment encore par l'actualité. Lendemain d'élections présidentielles et veille d'autres élections, cette fois-ci législatives, un temps qui mérite quelques relectures éclairées et interpellations constructives. En effet, par exemple, comment prolonger notre réflexion synodale sur l'écologie ? Quelle conversion ? Quand un rapport si alarmant du GIEC ne nous donne plus que 3 ans pour changer les choses ? L'apocalypse serait-elle à notre porte ou l'apocalypse prend-elle tout son sens de révélation ? Une révélation qui appelle au changement ou dit autrement à une ou des conversions. L'actualité française ne doit pas nous faire oublier cette actualité aussi plus large, plus internationale et ainsi mieux pensée. Notre évolution, conversion de société en France comme à l'étranger, notamment en ce qui concerne la laïcité ou encore l'évolution de la place de l'islam. D'autres changements dans les rapports hommes-femmes, voisins, frères et sœurs, comme entre la Russie et l'Ukraine, une actualité sur laquelle il faut trouver la bonne distance pour accompagner au mieux ceux qui sont au loin comme ceux qui sont tout proches de nous parce qu'ils ont fui et se retrouvent désormais parfois pour certains dans nos maisons ou à nos tables. Tout cela ne peut que visiter et être visité également par notre foi et c'est notre espérance qui doit pouvoir reprendre le dessus de nos éventuelles angoisses, permettre nos distances avec le Dieu argent. En tous les cas, ne pas tomber en panne d'espérance et savoir lire ou relire des sources et bonnes ressources pour continuer d'avancer sur nos chemins et mieux ainsi porter ce qui nous entoure. Vaste programme donc qu'on vous présente en détail dans cette émission. Merci à vous de nous écouter et pour ne rien manquer, de vous abonner à notre podcast, les podcasts de l'Église protestante unie. Sur votre plateforme préférée ou encore, abonnez-vous à nos playlists sur Deezer et Spotify. Merci également de nous écouter sur la web radio JR Radio, comme chaque lundi à 21h, où nous saluons une nouvelle fois les auditeurs qui nous rejoignent et qui ont désormais tout simplement pris l'habitude de ce rendez-vous hebdomadaire disponible au plus tard en fin de journée, le lundi, en podcast. Notre premier podcast sélectionné pour cette semaine est « Je pense, donc j'agis ». C'est une émission de RCF que nous diffusons, partageons régulièrement, diffusée donc lundi dernier, qui avait pour thème « Emmanuel Macron réélu, quelle réaction parmi les chrétiens ?» Était invitée à cette émission, notamment la pasteure Emmanuelle Sebolt, présidente du Conseil national de l'Église protestante unie de France.
« Cueillir l'autre comme un cadeau qui m'est fait ». Et donc, je crois que ce qui est non négociable dans ma lecture de l'Évangile, et c'est ce que je partage au sein de mon Église, c'est cet accueil de l'autre. Voilà. Et beaucoup moins les questions bioéthiques où, finalement, il y a une grande liberté de choix et de positionnement des membres de l'Église.
Si les trois invités se disent soulagés de la réélection du président Emmanuel Macron au regard de l'autre finaliste, si j'ose dire, de cette élection, chacun comprend également tous les points de vigilance à avoir pour ne pas continuer en partie l'humiliation de certaines populations de la société française, thème sur lequel nous reviendrons dans un instant dans ce podcast et dans notre sélection. Le débat et la réaction de certains auditeurs montrent la complexité de savoir quel est le meilleur engagement. Et ici, engagement politique de chacune et chacun en accord avec sa foi. La fidélité au Christ se joue certainement sur la question de service. Et comme l'écrivait au XIXe siècle l'infirmière britannique protestante de l'Église unitarienne, Florence Nightingale, à qui l'on doit les soins infirmiers modernes, « Dieu m'a parlé et m'a appelé à son service ». Quelle forme devait prendre ce service ? La voix n'a pas dit. J'ajouterai donc que c'est là que réside toujours et encore notre liberté et notre responsabilité de savoir faire les bons choix pour demeurer serviteurs de tous. Nous avons retenu ensuite le podcast d'Arte Radio avec cet épisode de 28 minutes du 26 avril. Cette émission avait pour invité le professeur Olivier Abel pour son excellent ouvrage « De l'humiliation » aux éditions « Les liens qui libèrent ». L'émission avait effectivement pour thème « L'humiliation, poison de la démocratie, course aux armements ». Elle commence bien notamment par un portrait à la mode 28 minutes d'Arte d'Olivier Abel.
La philosophie, la transmission, l'humiliation, c'est la règle de trois d'Olivier Abel. Sa passion pour la philosophie prend racine dans sa culture protestante. Le protestantisme, c'est l'esprit critique, précise-t-il. Né en 1953 à Toulouse, Olivier Abel est fils de pasteur et il grandit en Ardèche. J'accompagnais mon père dans ses visites aux malades, j'étais comme un mini pasteur.
Olivier Abel pose que le contraire de l'humiliation est la considération. C'est certainement un message important à entendre pour toutes les institutions ainsi que les politiques en ce temps de fin et début de campagne électorale. Olivier Abel parle également de l'humiliation horizontale avec notamment les réseaux sociaux, mais aussi par la fin des institutions qui marquent notre société ces dernières années. La suite de l'émission revient sur la course aux armements aujourd'hui dans le monde et n'est pas moins intéressante à écouter. Arrêtons-nous ensuite sur Encore plus, enquête sur ces privilégiés qui n'en ont jamais assez, titre de l'ouvrage de Louis Morin, directeur de l'Observatoire des inégalités, mais du coup également de l'épisode de Midi Magazine de Fréquence protestante du 26 avril dernier. Intéressante réflexion sur les inégalités qui nous est ainsi proposée dans cette présentation détaillée de l'ouvrage.
On est prêt à faire œuvre de solidarité pour peu que ça soit équitablement réparti, c'est-à-dire que chacun mette un petit peu du sien, et puis deuxièmement, pour peu qu'il y ait un projet. C'est-à-dire que derrière, la solidarité pour la solidarité, quand on vous prend votre argent par des impôts, bah, si vous avez le sentiment que ça ne sert à rien, bien évidemment que vous allez être contre.
Autre ouvrage et réflexion que Fréquence protestante nous présente dans son Midi Magazine du 20 avril, c'est cette fois-ci « L'homme et l'argent » du protestant Jacques Ellul, paru en 1953 et qui vient d'être republié aux éditions de la Table Ronde.
Le don est vraiment l'opposé, effectivement, de cette relation de rétribution, parce que les richesses, c'est pareil, c'est considéré comme une rétribution, comme ouais. « Ah ben, j'ai bien fait ceci, donc c'est normal, j'en récupère les avantages et les bienfaits. »
C'est la philosophe Madeleine Roux qui présente ici l'ouvrage et ses réflexions que posait déjà dans les années 50, donc combien l'argent est devenu la nouvelle divinité dans notre monde. C'est Jacques Ellul qui posait cela et cela m'amène à vous partager un autre ouvrage de Jacques Ellul, un inédit cette fois publié aux éditions Bayard en 2020, La loi de liberté, commentaire de l'épître de Jacques où l'on peut lire par exemple ceci quand Jacques Ellul commente les premiers versets du chapitre 5 et cite un passage de l'Ancien Testament au livre du Deutéronome chapitre 24 verset 15. Dans ce texte, on trouve une opposition entre le mode d'action du riche, qui frustre, agit par une action violente, et l'expression de l'ouvrier opprimé qui crie, exprime une parole. Peut-être vais-je trop loin, mais selon moi, on trouve une contradiction entre la richesse et la parole, écrit Ellul. La richesse se possède, s'amasse, elle est une action de violence, alors que la parole ne se possède jamais, ne se cumule pas, n'est pas objet de propriété, car la parole cherche à être communication avec les autres. Elle reconnaît l'autre, quand la violence et la richesse sont une négation de l'autre. Si la parole est au centre de la révélation, la condamnation de la richesse est beaucoup plus essentielle que nous ne le pensons. Nous en avons fait une réalité morale, mais là n'est pas le problème. Comme toute violence, la richesse est vraiment le contraire de la parole. Et Dieu, le Seigneur des armées, entend celui qui est opprimé. Fin de citation de Jacques Ellul. Alors, élection présidentielle passée, 13 associations chrétiennes interpellent Emmanuel Macron après sa réélection. Espérons que, comme l'écrivait Jean de la Bruyère, ce qui barre la route fait faire du chemin. C'est peut-être une interpellation que ces associations ont envie de poser à la fois au président de la République nouvellement réélu, non sans quelques difficultés ou embûches sur son chemin de campagne, mais aussi pour tous les candidats aux législatives finalement. Pour tous, n'oubliez pas les corps intermédiaires, les associations, forces d'engagement et de mobilisation, comme eh bien, nous avons pu le constater ces deux dernières années dans la crise Covid et ses diverses conséquences sociales.
Oui, Simon, changer de regard sur la pauvreté en revalorisant les minima sociaux d'au moins 30%, donner leur place aux plus fragiles, opter pour un progrès bioéthique, faire confiance aux entreprises ou encore régulariser les sans-papiers, du Secours catholique à la CIMAD en passant par Alliance Vitale, les Scouts et Guides de France, l'Office chrétien des personnes.
C'est avec joie ensuite que nous retrouvons le théologien Martin Kopp qui était l'invité de la FPF le 20 avril dernier, pour parler d'écologie et du rapport du GIEC.
Oui, alors la première chose à dire, c'est que ces changements-là ont été initiés. On voit qu'en France, par exemple, on mange moins de viande de manière tendancielle. En Scandinavie, on prend moins l'avion. On a commencé à changer nos mix énergétiques. Donc, c'est pas qu'on fasse rien et c'est la bonne nouvelle. Il y a des dynamiques en cours et des dynamiques positives. Le but ici, c'est de les renforcer et de les mener à coller aux trajectoires que la science nous présente et qu'il faudrait respecter. Donc, c'est un changement.
À noter que de son côté, le pasteur Stéphane Lavignotte sortira un nouvel essai sur cette question de l'écologie et du lien avec le christianisme, un essai qui oscillera entre analyse et plaidoyer, comme l'a souligné le journal Le Monde la semaine dernière, un essai qui sortira le 11 mai prochain. Alors que le monde entier se réarme militairement, comme vous avez pu l'entendre dans le podcast de 28 minutes qui portait sur l'humiliation avec Olivier Abel, mais aussi sur la course aux armements, peut-être nous faut-il collectivement relire cet écrit de Victor Hugo. Deux mains jointes font plus d'ouvrage sur la terre que tout le roulement des machines de guerre. Une invitation certainement à renforcer notre réarmement moral et spirituel dans la prière et la solidarité. Et c'est peut-être ce que nous trouvons également dans l'interpellation de la résurrection et la lumière des Negros Spirituals et des Gospels. Voilà pourquoi nous vous invitons à écouter le cinquième et dernier épisode de cette série d'émissions de Radio Air, un air d'actu avec le pasteur Serge Mola, dont nous vous avions proposé les quatre premiers épisodes dans notre sélection de la semaine dernière, que vous pouvez désormais retrouver donc dans la playlist du mois de l'Église protestante unie.
Au fond, la résurrection, elle affirme ce que la tradition noire a toujours dit, « God can make a way out of no way ». Dieu peut ouvrir un chemin là où il n'y en a pas. Et s'il y a un endroit où il n'y a pas de, semble-t-il, de chemin qui s'ouvre, c'est la mort. Et tout à coup, voilà, Dieu ouvre un chemin qu'est celui de la résurrection.
Proposition de pause méditative maintenant avec l'Alliance biblique française autour de différents versets de l'Évangile de Jean, chapitre 16, podcast intitulé « Respiration biblique » du 19 avril.
Si je le souhaite, je peux ouvrir mes mains, signe de mon désir de recevoir cette promesse, et dire à Jésus, à son esprit, « Viens ». Puis, dans le silence de mon cœur, j'accueille cette présence.
Vivre la fraternité, c'est aussi vivre l'œcuménisme, rester à l'écoute de ce que vivent nos frères et sœurs chrétiens d'autres églises. C'est pourquoi nous avons également retenu dans l'actualité de la semaine dernière la nomination de notre frère Laurent Ulrich comme nouvel archevêque de Paris. Si vous ne connaissez pas ce théologien catholique ou que vous voulez entendre les premières réactions de celui qui a la joie de croire, vous pouvez écouter cette émission où il était grand invité du 26 avril de RCF.
Le socle, c'est le Christ, c'est-à-dire la certitude que nous ne sommes jamais seuls, que Dieu ne nous laisse pas seuls dans un océan d'incertitudes. Il y a bien des incertitudes dans l'existence, mais il y a une certitude plus fondamentale pour le croyant que je suis, qui est que le Seigneur n'abandonne jamais son peuple, n'abandonne jamais ceux qu'il aime.
Si l'évêque de Lille et désormais de Paris s'est engagé notamment à Calais, mais aussi dans la nécessité de faire barrage à la pensée de l'extrême droite, revenons sur l'intervention de la Fédération protestante de France dans cette campagne présidentielle dans l'entre-deux-tours qui demeure d'actualité pour les législatives. Il s'agit d'un podcast RCF, l'actu chrétienne du 20 avril, qui avait pour thème « La vision de la laïcité de Marine Le Pen inquiète les protestants ».
C'est la question de l'étranger. Lorsque l'hospitalité se mue tranquillement en hostilité, que signifie au fond ce refus de l'altérité dans un pays qui est construit précisément par l'accueil de l'altérité? Comment bâtir une société de fraternité lorsque précisément l'accueil de l'autre, tout ce qui dérange, est tout de suite érigé en ennemi de la nation? Là, il y a vraiment des interrogations fortes que la Fédération porte à travers ses œuvres, ses associations.
Autre vision de la laïcité, celle qui se vit en Allemagne, c'est ce qui était au programme de Midi Magazine de Fréquence Protestante au début du mois d'avril. Sujet de ce podcast, laïcité à l'allemande, islam et église chrétienne.
Et des conflits également, puisque des conflits, il y en a aussi
oui, bien
de nature
sûr.
Religieuse, mais non, il y avait vraiment une expérience de dialogue tout à fait intéressante entre les élèves et une prise en compte des convictions, des croyances. Les croyances n'étaient pas laissées à la porte de l'école, elles entraient complètement dans l'école.
Voilà,
pour un regard français, évidemment, c'est très étonnant et je trouvais ça assez fascinant.
Raleb Benchir nous proposait le 17 avril dernier sur France Culture, dans l'émission « Questions d'islam », une approche de la présence musulmane sur les réseaux sociaux dans le podcast très intéressant avec Benjamin Audaillet, historien. « L'islam en ligne, le phénomène des imams youtubeurs, Instagram, TikTokers ».
Ligne uniquement religieuse, qui ne font quasiment rien d'autre, mais il y a la grande majorité des internautes, et notamment des jeunes internautes, effectivement, leur consommation religieuse se font dans une consommation en Internet, en contenu Internet, beaucoup plus général, qui peut être effectivement des danses, de l'humour, etc.
Quelle transmission et présence avons-nous, nous protestants, luthéro-réformés? Nous pouvons nous le demander, peut-être un peu mieux le travailler, car si hier l'imprimerie a permis l'essor du protestantisme, quel essor religieux ou spirituel se développe désormais via le numérique? N'est-il pas justement souvent plus religieux que spirituel? Est-ce positif? Savons-nous prendre notre place en ligne pour être des témoins de Jésus-Christ face à des transmissions religieuses pour le moins régulièrement radicales, comme nous le présente d'ailleurs cette émission, ce podcast? Question d'islam. Nous espérons que notre présence à travers ces podcasts, comme celui que vous écoutez actuellement ou encore JR Radio, participe à un témoignage luthéro-réformé à la fois fidèle à cette théologie et renouvelé notamment dans sa forme par la nécessaire présence que permet aujourd'hui les différentes possibilités numériques dans notre monde contemporain. Alors, pause spirituelle pour placer le Christ au centre de nos vies, avec maintenant la pasteure Agnès von Kirschbach sur Fréquence Protestante pour le culte du soir du 25 avril, culte qui était donc au lendemain du second tour de l'élection présidentielle.
Nous te confions les résultats de ces élections. Nous te confions notre pays, tous celles et ceux qui gouverneront, qui prendront des décisions, qui auront à faire des choix. Nous les portons dans la prière devant toi en demandant que aucun ne cherche sa propre gloire, son honneur ou sa promotion.
La suite de cette prière est évidemment à écouter, à vivre, à partager dans ce podcast cultuel de Fréquence Protestante. Comment parler d'actualité sans parler de la guerre qui rythme chacun des journaux télévisés, radio et presse écrite depuis le début de la guerre en Ukraine? pas forcément pour entendre une nouvelle fois tout ce que nous pouvons lire ou voir dans cette actualité, mais nous poser sur des questionnements, témoignages qui nous aident à mieux nous positionner, porter cette actualité dramatique. Le premier sujet que nous abordons, eh bien, c'est la question du viol. Du viol qui est devenu une arme de guerre. Un sujet très bien abordé sur France Culture dans les matins du samedi avec Céline Bardet, juriste et enquêtrice criminelle internationale, et l'anthropologue Véronique Naoum-Grapp. Il est question, un peu prématurément, comme le soulignent d'ailleurs les invités, de la question du pardon, car pour l'heure la question est celle surtout de la reconnaissance des faits, pour entrer dans des processus de justice et de reconstruction dans lequel le pardon peut éventuellement intervenir.
Pardon d'expression, mais on parle des violences sexuelles avec le conflit en Ukraine, et c'est un problème récurrent dans le monde. Mais par exemple, les victimes...
Ça fait 25 ans, par exemple, que ça prospère en République démocratique du Congo,
et dans plein d'autres endroits. Je n'ai même pas envie de commencer par parler de la Syrie et de la Libye, etc. Mais ce que je voulais dire, c'est que les victimes, en fait, moi, toutes celles à qui je parle, ce qui est important pour elles, c'est qu'on reconnaisse ce qui leur est arrivé.
Autre sujet, si j'ose dire, plus léger, quoique... et qui était d'actualité le week-end dernier, c'était la fête de Pâques pour les orthodoxes, et notamment les orthodoxes d'Ukraine.
Pâques signifie, n'est-ce pas, passage de l'esclavage à la liberté pour les Hébreux, et de la mort à la vie pour les chrétiens. Il est nécessaire de rechercher, bien sûr, la paix, mais pour être solide, elle doit être fondée sur la justice et la vérité.
Actualité littéraire, en lien également avec l'histoire de l'Ukraine, avec cette publication de La stupeur d'Aaron Appelfeld chez l'éditeur L'Olivier, que nous présente dans ce podcast de RTL, Les livres ont la parole, sa traductrice Valérie Zenati.
Et qui, il faut le dire, était évidemment et bien loin du pays nazi décrit par le pouvoir russe. C'est un pays qui reconnaît qui sont les siens, y compris les juifs qui sont nés là-bas.
Que penserait Aaron Appelfeld de la guerre en Ukraine aujourd'hui?
Alors je crois qu'il aurait regardé ça évidemment avec effroi, avec ce sentiment qu'il y a quelque chose d'une sauvagerie en l'homme, que rien ne peut juguler jusqu'au bout.
Nous arrivons à la fin de notre sélection de podcasts avec angoisse et espérance. Nous commençons avec un premier podcast France Culture et les chemins de la philosophie. Cette émission s'ouvre sur un extrait des Simpsons qui nous relise à leur manière Adam et Ève. Et le titre de cette émission d'Adèle Van Rett, Bonjour l'angoisse, Kierkegaard, l'angoisse et le vertige de la liberté. C'est une troisième émission sur l'angoisse dans une série de quatre, mais qui s'arrête ici sur la pensée capitale de Kierkegaard sur ce sujet donc de l'angoisse.
Il est la métaphore qu'on a vue avec le vertige, où on se reprend. Ouais. Voilà. Mais on se reprend à une forme supérieure. On se reprend soi-même, on devient plus existant, on devient plus réel, en quelque sorte, en se reprenant. Or, encore une fois, l'état limitrophe avant le choix, qui est un choix de soi, un choix de soi, on se choisit.
Partageons ici un extrait de l'un de ces discours, des discours de Kierkegaard intitulé « Le souci de se tourmenter » qui prolonge peut-être aussi ce que nous venons d'entendre. Parce qu'il croit, le chrétien est délivré du lendemain. Le croyant prend l'attitude inverse de celui qui se tourmente et qui, tout à l'inquiétude du lendemain, oublie complètement le jour présent. Le croyant est un présent. Et suivant le sens originel de ce mot, il est un puissant. Celui qui se fait des tourments est un absent, un impuissant. Souvent, nous entendons formuler le vœu d'être contemporain de tel grand homme, de tel grand événement. On s'imagine que cette contemporanéité pourrait faire de soi un personnage. Peut-être. Mais ne vaudrait-il pas mieux désirer être contemporain de soi-même? Qu'il est rare, en effet, le véritable contemporain de soi-même. Car la plupart sont à des centaines et à des milliers de lieues en avant d'eux-mêmes, dans le sentiment, l'imagination, les dessins, les résolutions, les désirs, les aspirations, leur vision d'apocalypse, les illusions de théâtre. Du moins sont-ils à plusieurs étapes de la vie en avant d'eux-mêmes. mais le croyant, le présent et contemporain de lui-même, au sens le plus élevé du mot. Et ce qui est le plus propre à cultiver et à développer un homme, c'est d'être, grâce à l'Éternel, entièrement contemporain de soi, le jour présent. C'est là le gain de l'éternité. Et certes, jamais non plus il n'y a eu d'événement ou de grand homme contemporain aussi grand que l'éternité. Et cette contemporanéité du jour présent, c'est justement la tâche. Quand on s'en acquitte, on a la foi. Aussi le chrétien loue-t-il, à l'exemple d'un des plus stricts pères de l'Église, un mot de Sirach où il voit, non une règle de sagesse, mais la crainte de Dieu, « Aime ton âme, console ton cœur et chasse le souci loin de toi », Sirach 30, 24. Et qui est cruel, comme l'est envers lui-même celui qui se tourmente. Mais tous ces tourments, toutes ces tortures qu'il se plaît cruellement à inventer et à s'infliger, se résume dans ce mot le lendemain. Fin de citation de Kierkegaard où, si j'ose dire, tout est dit. Alors, pour conclure et renforcer la lutte contre toute panne d'espérance en travaillant mieux l'avant de bien des conflits et problèmes, un dernier podcast de Radio Air, un air d'actu avec, cette fois-ci, Frédéric de Coninck, foi chrétienne dans un monde en panne d'espérance.
Enfin, en termes d'espérance, je dirais séculière, on est solidaire des autres, on est solidaire des pays où on vit, et puis il n'y a pas de raison de penser qu'on va échapper aux conséquences de la guerre juste parce qu'on est chrétien. La question, c'est plutôt en quoi est-ce qu'on peut essayer de faire entendre quelque chose de différent.
Voilà pour cette nouvelle sélection de podcasts restée dans nos oreilles cette semaine. Ce n'est une fois encore qu'une toute petite sélection pour rester raisonnable dans la disponibilité d'écoute de chacune et chacun, d'une part ou de l'intégralité de cette sélection. Cette sélection, vous pourrez l'entendre en dialogue avec différents choix musicaux sur notre playlist proposée sur Spotify. Et si vous ne voulez rien manquer de nos podcasts, eh bien abonnez-vous à ces podcasts de l'Église protestante unie de France sur votre plateforme préférée ainsi qu'à nos playlists. Et si vous voulez mieux découvrir la sélection musicale en dialogue avec ces podcasts, eh bien rendez-vous également sur notre podcast dans les oreilles de l'Église protestante unie, la musicale 17. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine et vous donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine. C'était dans les oreilles de l'Église protestante unie de France, les podcasts.